Le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, petit retour sur le conflit aux multiples visages où s'entremêlent Israël, la Palestine, l'Iran, les États-Unis, l'Égypte, l'Europe, sans oublier le rôle croissant de l'ONU et des ONG de défense des droits humains. Les droits humains et le droit international sont mis à rude épreuve comme jamais ces dernières années. La flamme du conflit s'est ravivée à l'automne 2023 lorsque le Hamas a lancé des roquettes et organisé une incursion le 7 octobre, entraînant la mort d'environ 1200 Israéliens et Israéliennes, et la prise d'otages. La riposte israélienne a été immédiate et disproportionnée selon les autorités comme selon les rapports d'organisations tels que Human Rights Watch ou Amnesty International. Ces tirs ont fait des milliers de morts civils palestiniens et palestiniennes dans Gaza, et des opérations massives de destruction et de déplacement forcé ont suivi, conduisant Human Rights Watch à qualifier cela de crime contre l'humanité et de nettoyage ethnique. L'offensive israélienne, selon les ONG, ne s'est pas limitée à des frappes ciblées. Elle visait des infrastructures civiles essentielles, des hôpitaux, des écoles, des logements, des terres agricoles, et a imposé un siège total, coupant eau, électricité, carburant, nourriture, etc. Human Rights Watch et Amnesty International considèrent ça comme l'utilisation de la famine comme arme de guerre, un crime selon le droit international. Amnesty, de son côté, dénonce un mépris total du droit humanitaire et appelle les États européens, notamment à suspendre son soutien militaire à Israël tant que ces violations perdurent. Dans le même temps, la Cour internationale de justice a émis un avis consultatif en juillet 2024, déclarant l'occupation israélienne illégale et demandant le retrait des colonies et la restitution des terres occupées. Amnesty International et Human Rights Watch appellent à traduire en justice Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant devant la Cour pénale internationale pour crimes présumés de guerre et d'apartheid. À l'autre bout de la région, l'Iran joue aussi un rôle essentiel, soutien non seulement indirect mais parfois direct du Hamas et du Hezbollah. Téhéran est un acteur stratégique du conflit. Or, sa propre situation des droits humains est particulièrement préoccupante. D'après Amnesty International, en 2024, les autorités iraniennes ont intensifié la répression des droits à la liberté d'expression, à la liberté de mouvement, des femmes, des minorités comme les Baha'is, et il y a beaucoup d'arrestations arbitraires, de tortures, d'exécutions, de châtiments corps pour elle, autant de violations graves des standards internationaux. Cette réalité, ainsi que son influence régionale, complique toute issue diplomatique durable. Du côté des grandes puissances, les États-Unis restent l'allié militaire et politique historique d'Israël, avec des ventes d'armes massives. Human Rights Watch et Amnesty International pointent du doigt ce soutien, arguant qu'il rend Washington complice des violations, notamment des crimes de guerre identifiés. L'Europe, à travers certains gouvernements et la Commission européenne, affiche un discours plus critique et appelle à la justice internationale, mais reste divisée. Amnesty International déplore que certaines visites diplomatiques à Israël se fassent au détriment du respect du droit international. La France, quant à elle, navigue entre ses alliances stratégiques et ses engagements en matière de droits humains. Elle a demandé un embargo sur les armes destinées à Gaza, mais continue d'exporter vers Israël, selon Amnesty. Elle soutient les résolutions de l'ONU condamnant l'occupation, même si les mesures concrètes restent limitées. Au sein des Nations Unies, plusieurs résolutions ont été adoptées. L'Assemblée générale demandant la fin de l'occupation illégale après un avis consultatif de la Cour internationale de justice. Le Conseil des droits de l'homme a émis des rapports accablants, notamment celui mené par la commission d'enquête indépendante en juin 2024, qui a affirmé que les deux camps, Israël et Hamas, ont commis des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, et a soumis des milliers de preuves à la Cour pénale internationale. Amnesty appelle, quant à elle, à la mise en place d'un mécanisme de sanctions ciblées et à une coopération pleine et entière avec la Cour pénale internationale de la part de la communauté internationale. Plus largement, la crise a entraîné des crises humanitaires majeures, parce qu'on a quand même le déplacement de près de 1,9 million de personnes à Gaza, 90% de la population forcée de fuir, pénurie, hôpitaux détruits, malnutrition, épidémie. Human Rights Watch qualifie cette situation de menace à l'existence même de la population civile, évoquant la destruction de leur droit à la vie digne. Parmi les puissances régionales, l'Égypte, gardienne de Rafah, est devenue l'unique point d'entrée possible pour l'aide humanitaire. Elle joue un rôle de médiation, tout en maintenant des contrôles stricts aux frontières sous pression israélienne et égyptienne. L'Europe, quant à elle, tente des actions diplomatiques dans le cadre de l'Union européenne, mais Amnesty soulève le manque de cohérence entre les engagements et la réalité géopolitique. Enfin, les pays asiatiques, tels que la Chine et l'Inde, ainsi que des puissances émergentes, adoptent souvent une posture diplomatique moins engagée, appelant au cessez-le-feu sans pour autant proposer de solutions actives. La neutralité politique ne se traduit pas toujours par un plaidoyer clair en faveur des droits humains. Au-delà des déclarations, l'enjeu, c'est de transformer le droit international en rempart réellement efficace. La Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, le Conseil des droits de l'homme et le droit humanitaire international définissent des normes claires. Distinction entre cibles civiles et militaires, prohibition des sièges collectifs, obligation de laisser passer l'aide humanitaire, interdiction de la famine comme arme de guerre. Mais leur mise en œuvre est toujours freinée par les réalités géopolitiques. Ce conflit donc ne se résume pas à un affrontement militaire, c'est un choc de modèles. D'un côté la sécurité de l'État d'Israël et son droit à se défendre, et de l'autre la défense des droits fondamentaux d'une population civile sous occupation, privée de ses droits les plus élémentaires. Entre deux, les populations vivent la déshumanisation, la violence, la destruction systématique de leurs moyens de subsistance. Les ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch restent mobilisées, elles documentent, dénoncent, persuadent les institutions internationales et nationales de renforcer la pression, les sanctions, les enquêtes et les poursuites. Et notre stratégie, c'est tout simplement de rendre visibles les crimes, inciter donc à l'action et briser l'impunité. Parce qu'au cœur des débats, il y a des femmes et des enfants. Plus de 70% des victimes recensées par l'ONU sont des femmes et des enfants. Leur vulnérabilité, le choc psychologique, la perte de repères, l'effondrement des écoles, des hôpitaux, des droits, tout ça, ça nourrit un traumatisme générationnel. Ce que le droit international cherche à protéger, c'est précisément la dignité humaine. Et cette dignité est aujourd'hui piétinée dans trop de zones de conflit. Les maisons sont bombardées, les civils déplacés, l'eau empoisonnée, les privations... Tout ça, ça forme le tableau d'une crise humanitaire au bord du gouffre. Aujourd'hui, Amnesty International veut lancer un appel. La parole des victimes, des ONG, des institutions ne doit plus être noyée dans les balancements stratégiques des grandes puissances. L'inaction internationale, les intérêts géopolitiques, la marchandisation des armes enterrent les droits humains. Si ce conflit perdure... C'est parce que les enjeux vont bien au-delà d'Israël et de la Palestine. Il s'agit d'un test pour le droit international. Survie ou dérive centrifuge. Suppression des droits civils, droit à la résistance, équilibre entre lutte contre le terrorisme et protection des civils, les dilemmes restent entiers. L'enjeu pour les États-Unis, l'Union européenne, la France, l'ONU et beaucoup d'autres pays, c'est de choisir entre puissance et responsabilité, entre intérêts militaires, ressources, alliances géopolitiques et obligations morales et juridiques universelles. Ce conflit ne sera pas tranché dans un bunker stratégique, mais sur le terrain, dans les tribunaux internationaux, dans les médias et dans les cœurs et les consciences. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice, sans réparation, sans reconnaissance du droit des peuples et des civils à vivre libres, égaux et protégés. En ce mois de juin 2025, l'attention est cependant tournée vers l'Iran, puisque depuis le début des hostilités entre Israël et l'Iran, la situation des personnes accusées d'espionnage pour le compte d'Israël suscite une inquiétude croissante. Amnesty International a lancé une alerte. Les autorités iraniennes procèdent à des arrestations massives, appellent à des procès rapides, voire des exécutions immédiates, et ont déjà mis à mort un homme le 16 juin dernier. Ces faits s'inscrivent dans un contexte de plus en plus dramatique où la peine de mort est instrumentalisée pour semer la peur et museler toute opposition. Depuis l'offensive israélo-américaine lancée le 13 juin, l'Iran est en état d'urgence. Des dizaines de personnes ont été arrêtées et les autorités judiciaires, à travers le responsable Gholam Hossein Mohseni Ezei, exigent des condamnations ultra rapides pour collaboration avec Israël assorties de la peine capitale. Le Parlement iranien s'est empressé d'aller plus loin. Il envisage donc de transformer l'espionnage, déjà passible de prison, en crime capital via une nouvelle loi en cours d'adoption. Amnesty International dénonce ces dérives comme autant de violations des droits internationaux. Selon notre organisation, la peine de mort est un châtiment cruel, inhumain et dégradant et ne peut être imposée pour des crimes qui n'impliquent ni meurtre ni violence grave à l'encontre d'autrui tels que l'espionnage. Pire encore, ces arrestations se déroulent dans un climat de torture avérée et de disparition forcée, souvent suivie de confessions qui sont donc extorquées par la violence. Le cas d'un universitaire suédo-iranien, Ahmadreza Djalali, est particulièrement emblématique. Lui, il est détenu depuis 2016. Il est condamné à mort après un procès expéditif basé sur des aveux sous la torture. Et il est aujourd'hui transféré vers une cellule d'exécution, alors que des exécutions ont déjà eu lieu. Amnesty International craint désormais pour sa vie, tout comme celle d'au moins 8 autres hommes condamnés dans les mêmes circonstances. Ces pratiques, elles s'inscrivent dans un cadre plus large, cela dit, de répression politique. En parallèle des militants et militantes pour la liberté, des manifestants et manifestantes de la vague Femme, Vie, Liberté, des défenseurs et défenseuses des droits de l'homme et des journalistes subissent arrestations arbitraires, tortures, procès truqués et exécutions. Les femmes en particulier sont visées, le nombre d'exécutions de femmes activistes a augmenté, souvent pour des délits d'opinion ou de participation au mouvement, ce qui relève d'un recours disproportionné à la peine capitale. Toutes ces mesures constituent des violations flagrantes du droit international, la peine de mort pour espionnage, l'absence de procès équitable, la torture, tout ça, ça constitue des crimes selon les conventions internationales auxquelles l'Iran est pourtant partie. Amnesty exige donc l'arrêt immédiat de toute exécution, la protection des détenus contre la torture et les disparitions, l'accès à un avocat dès l'arrestation et la tenue de procès équitables conformes au droit international. Si vous voulez d'ailleurs signer des pétitions en ce sens, je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr. Alors tous ces développements, ils interviennent peu après les bombardements israéliens et américains sur des cibles iraniennes, notamment des installations nucléaires, qui ont déclenché une série de représailles, notamment une frappe iranienne sur une base américaine au Qatar. Le conflit armé exacerbe les tensions internes à l'Iran, faisant du climat sécuritaire et de la répression une menace encore plus grave pour le respect des droits fondamentaux. La riposte internationale appelle à la modération. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a alerté « la spirale militaire actuelle pourrait, je cite, déclencher un incendie que personne ne pourra maîtriser ». Une délégation de l'ONU missionnée en Iran a signalé que des frappes israéliennes peuvent avoir violé les lois humanitaires internationales, notamment en touchant des civils, des hôpitaux, une clinique pédiatrique et en causant la mort de travailleurs et travailleuses humanitaires. Parallèlement, des condamnations sont venues d'Allemagne, du Royaume-Uni et d'autres pays européens, mettant en garde contre l'escalade géopolitique, parfois jusqu'à des retraits temporaires d'ambassadeurs. La France est particulièrement préoccupée par l'éventuel ciblage d'Evin, la prison où sont détenus de nombreux prisonniers, prisonnières politiques et d'étrangers. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié une attaque sur la prison d'inacceptable et a demandé un cessez-le-feu immédiat, soulignant les enjeux humanitaires pour les citoyens français détenus. La montée en puissance de la doctrine du passage en force judiciaire en Iran, en période de conflit, représente une gravissime dérive. Substituer l'exécution sommaire à la justice signifie transformer la loi en un instrument de mort et d'arbitraire. C'est ce que dénonce Amnesty International, je cite « La peine de mort est un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Son usage pour l'espionnage est interdit par le droit international. » Ces événements révèlent une menace grandissante, l'usage de la peine capitale comme une arme politique d'un État en guerre contre un ennemi extérieur, mais aussi contre sa propre population. Derrière les chiffres des victimes du conflit Israël-Iran, plus de 224 morts en Iran, dont de nombreux civils et plus d'une vingtaine d'Israéliens tués, se joue un autre drame, celui des droits humains à l'intérieur même des frontières iraniennes. Pour sortir de cette spirale, la communauté internationale doit agir. Renforcer les mécanismes de suivi des exécutions, protéger les droits juridiques et médicaux des prisonniers, imposer des sanctions ciblées contre les juges, les procureurs et les responsables politiques qui sont accusés de violations flagrantes. Il est urgent que l'Iran instaure un moratoire sur la peine de mort, rétablisse des normes judiciaires dignes et respecte les conventions internationales auxquelles il est parti. L'ONU, l'Union européenne, la France, les États-Unis, tous ont la responsabilité d'œuvrer publiquement et fermement en ce sens. Le conflit entre Israël et Iran, bien qu'international et militaire, a des répercussions majeures sur les droits fondamentaux à l'intérieur de l'Iran. Derrière chaque arrestation arbitraire, chaque procès expéditif, chaque exécution, ce sont des vies humaines qui sont brisées, des familles dans l'angoisse des sociétés qui sont traumatisées. Le respect du droit international et des droits humains doit redevenir la ligne rouge à ne pas franchir. Parce qu'un conflit peut justifier une réponse militaire, mais aucune guerre n'excuse l'abaissement des standards moraux et juridiques. Parce que la torture, la disparition forcée, la privation du droit à un procès équitable, la peine de mort sans fondement, tout ça, ça constitue des crimes en toutes circonstances. Parce qu'au cœur de la bataille idéologique et stratégique, eh ben, se joue la dignité humaine et la justice. Avec Amnesty, on vous invite du coup à veiller attentivement aux annonces judiciaires iraniennes à venir, à soutenir les appels qu'Amnesty International lance, les appels des ONG en général et de l'ONU, à réclamer la vérité, la protection, la fin des exécutions liées à l'espionnage et la remise en cause de l'ennemi intérieur comme justification. Et pour ça, vous pouvez aller sur notre site amnestyinternational.fr pour signer des pétitions en ce sens. Dans cette zone de combat planétaire, les véritables victimes sont souvent invisibles, mais c'est leur voix qu'il faut porter. C'est pour ça qu'à Amnesty International, leur droit à la vie, à la justice, à la liberté, c'est notre priorité. Et c'est ce droit que nous devons défendre, même à voix haute, même loin des caméras, dans l'écho des couloirs diplomatiques et judiciaires. C'est ce qu'essaye de faire Amnesty International avec votre aide. Donc n'hésitez pas à aller visiter notre site. Moi, je vous souhaite un beau week-end sur Radio FM+, et à la semaine prochaine.